France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Voilà 2 ans qu'il co-dirige avec William Christie les Arts Florissants, sans doute le plus célèbre et l'un des plus anciens ensembles de musique ancienne et baroque en France. Bonjour Paul Agnew.
Bonjour.
Vous venez de sortir chez Harmonia Mundi le 2e volume des Madrigaux de Gesualdo, les livres 3 et 4. Ensemble, on va parler de ce nouveau disque qui vient tout juste de paraître, un double album d'ailleurs. On va aussi évoquer vos prochains projets avec les Arts Florissants, cette situation sanitaire un petit peu pour votre ensemble aussi et pour les jeunes chanteurs que vous défendez, dont vous vous occupez dans le Jardin des Voix. Mais d'abord, Paul Agnew, vous êtes écossais. Depuis plus d'un mois, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. En tant que musicien, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen britannique vivant en France, qu'avez-vous ressenti ?
Je suis plutôt très très triste pour la situation, triste pour cette vision de la Grande-Bretagne, d'Angleterre comme les étrangers qui ont rejeté cette idée de communauté. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais européen. Je n'ai jamais, d'ailleurs, j'ai toujours mon passeport britannique. Et je n'ai jamais imaginé avoir besoin d'autres, parce que j'étais européen comme nous tous. Et j'adorais cette idée. Je voyageais toute ma vie, toute ma carrière. Donc, chaque coin de l'Europe avec un énorme plaisir. Maintenant, bien sûr, c'est plus difficile. Et donc, j'espère que je vais rejouer dans la nationalité française bientôt.
Ah bon?
Oui, tout est
comme William Christie.
Voilà.
Pour William,
c'était plus important dans le sens que c'était beaucoup plus pratique de devenir européen parce qu'il était américain et donc chaque fois passer les passeports, etc. C'était plus difficile. Mais moi, je n'ai jamais imaginé ça. Mais je serais extrêmement content, même très honoré d'être français un jour. J'espère bientôt.
Vous allez faire la démarche. Vous allez faire la
démarche. Les démarches sont déjà faites. D'accord. Donc j'attends les réponses, je croise les doigts.
Paul Agnew, le Brexit rend aussi plus complexe les déplacements des musiciens, on l'a déjà dit dans cette émission, et notamment d'un ensemble comme les Arts Florissants, s'il veut aller se produire en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui vous préoccupe ?
Ce n'est pas tout simplement ça, mais les Arts Florissants étaient toujours un ensemble relativement international, bien sûr basé ici en France, et la plupart des musiciens et des chanteurs sont français, mais il y a des invités et
des chanteurs. Très,
voilà, notamment pour Gesualdo, on devait faire le 6e livre de Gesualdo, le dernier livre, le livre le plus extraordinaire, le plus étrange, là en février. Et tout simplement impossible de sortir les chanteurs, deux chanteurs, on voulait avoir deux chanteurs britanniques. Et impossible de sortir du pays. Les frontières sont fermées. Et bien, évidemment, je comprends très bien, la musique n'est pas considérée essentielle pour le bien-être de la France. Et donc voilà, impossible. Donc il fallait, en tous les cas, les concerts étaient largement annulés, mais on voulait enregistrer le dernier disque. Et ça sera fait plus tard maintenant. Donc oui, et c'est aussi que j'ai ma famille en Angleterre, ma mère. Et ça rend la vie très compliquée. Très compliqué.
Et vous avez donc dû penser à un programme de secours Monteverdi, de secours entre guillemets, dont on parlera tout à l'heure. Mais il est temps d'écouter un premier extrait de cet album Gesualdo, livre 3 et 4. Voici l'un de ses madrigaux.
Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. che non lancia.
Si va, si dolce, si dolce, si vi san.
Carlos Gesualdo, extrait du livre 4 de ses madrigaux, c'est Chiudete nel cuore, si vous emprisonnez dans votre cœur, les arts florissants dirigés par Paul Agnew. Les arts florissants, quelques chanteurs, dont vous d'ailleurs, puisque vous chantez ici également. Il y a combien de voix dans ce qu'on vient d'entendre?
Il y a cinq voix, mais il y a toujours six chanteurs disponibles, parce que il y a les voix qu'on imagine normales, soprano, alt, ténor, basse, mais il y a aussi une voix qui s'appelle quinto. Quinto, ça veut dire juste cinquième voix. Mais cette cinquième voix bouge, ça peut être un ténor, ça peut être une soprano, ça peut être un alto. Donc il faut six chanteurs pour faire la musique de cinq voix.
Parfois vous êtes quinto d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui, je bouge un tout petit peu.
Et donc, six livres, vous évoquiez tout à l'heure ce sixième, le plus extraordinaire. Ici, c'est les troisième et quatrième, et vous avez déjà enregistré les premiers et deuxièmes. Il y a une évolution de livre en livre. Déjà, quand on écoute l'album, donc il y a un disque livre 3, un disque livre 4, on a l'impression qu'il y a une évolution déjà en écoutant le disque.
Oui, tout à fait. Parce que, en fait, on pense à Gesualdo comme un compositeur extraordinaire qui écrit les harmonies très, très bizarres et très, très célébrées, mais pour la plupart, c'est un compositeur comme beaucoup d'autres compositeurs, comme Monteverdi d'ailleurs. Et donc, il arrive pour son deuxième mariage en 1594 à Ferrare. Mais Ferrare se trouve une des ensembles le plus vertueuses de l'Europe, du monde à l'époque. Et donc, bien sûr, il commence à écrire pour eux. Et aussi, il est entouré par les compositeurs de grand standing. Et lui, il est noble. Il n'est pas un compositeur normal, on va dire, parce qu'il n'a pas besoin de composer. C'est un homme d'une très grande fortune. Et donc, il compose pas par commande. Il n'y a personne derrière qui dit: on y va, Carlo, j'aimerais bien avoir une soirée vendredi et je veux que vous composez quelque chose. Il compose pour lui-même. Mais bien sûr, il est comme un éponge à cette époque et il apprend énormément. Et donc, ses œuvres deviennent de plus en plus expressives et de plus en plus professionnelles. Parce que nous, on a trouvé pour les premiers livres que la musique était très belle, mais assez difficile. Parce que le technique n'était pas exactement là. Parce qu'un noble, comment éduquer un noble dans la musique avec le même rigueur qu'un jeune Monteverdi, ou un jeune Marenzio, ou un jeune De Wert, c'est beaucoup plus délicat. Et donc là, on trouve...
Parce qu'on
ne veut
surtout... pas l'engueuler quand il se trompe.
Voilà, on dit, oui, c'est très très beau, ça peut être encore mieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je crois que... Par ambition et par exemple, là, maintenant qu'il est établi à Ferrare avec les autres autour, il devient de plus en plus professionnel et donc plus en plus expressif.
Stimulé par les compositeurs qui l'entourent, stimulé par ses interprètes qui sont plus brillants, plus forts que ceux qu'il connaissait jusque-là. Est-ce que c'est... On a l'impression que vous dites que finalement, ce n'est pas un cas à part dans l'histoire de la musique, comme on le dit parfois. Ce n'est pas le révolutionnaire que certains croient qu'il est, comme s'il était venu d'un autre temps musical, avec ses sons, ses disharmonies, ses dissonances.
C'est ça, c'est un peu le but de notre série, c'est d'un tout petit peu exploser cette idée. Mais pas pour réduire Gesualdo. Gesualdo est un compositeur de grand standing et d'une imagination absolument fertile, incroyable, mais de lui mettre vraiment dans sa position. Et donc, il n'est pas le premier compositeur qui compose la musique chromatique, par exemple. Il y a beaucoup de Lasso, de Roré. Et en fait, à Ferrare, il y a une grande tradition déjà, la musique la plus expérimentale et la musique chromatique. Et donc, lui, bien sûr, il prend ça plus loin, il prend ça jusque ses limites, je crois. Mais il suit les autres compositeurs qui étaient intéressés par ça. Et donc, c'est de lui mettre dans sa propre position, plutôt qu'imaginer comme Kraft, Stravinsky et surtout Aldous Huxley a pensé au début du XXe siècle comme quelqu'un hors temps, quelqu'un tellement extraordinaire qui rien s'est passé avant et rien s'est passé après. Cette idée qu'il est fou. Il n'est pas fou du tout, il est très très intelligent.
So,
un autre madrigal de Gesualdo. Ici, c'est le livre 3. C'est Les Arts Florissants, dirigé par Paul Agnew, sur ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Double disque, ça parle de quoi ici, Paul Agnew?
Ça parle des soupirs. Mais les soupirs, on n'est jamais très sûr si c'est à cause de la tristesse ou à cause de l'excitation, on va dire. C'est un peu tôt le matin pour parler de tout ça, mais il y a toujours cette ambiguïté dans les textes de Gesualdo.
La mort et le sexe.
Voilà, l'amour et le sexe, et voilà, rien ne change, on va dire, dans la vie, mais pour les compositeurs de l'époque, et surtout Gesualdo.
Important aussi dans la vie de Gesualdo, puisque bien sûr, c'est aussi le prince assassin, celui qui va tuer sa première femme et l'amant de celle-ci. Autre, peut-être, cliché ou que vous mettez en brèche, on essaie de trouver des éléments de violence ou de perversion même dans sa musique.
Je crois que c'est la grande difficulté, parce que c'est vrai que nos préconceptions d'un compositeur comme Gesualdo, c'est qu'il est violent et il est meurtrier et l'acte était d'une violence terrible, etc. Et c'est vrai, mais il faut essayer de le voir dans la moralité de l'époque. Et sa femme, il est noble, donc il est extrêmement connu, il a des responsabilités civiques, etc. Et sa femme est en train d'avoir une aventure avec un autre noble, quasiment, d'une façon quasiment publique. Et à l'époque, cette situation était complètement insupportable. Et même, là maintenant, en Italie, une des plus grandes insultes, on peut dire, c'est que on est trompé par notre femme. C'est terrible pour cette sentimentalité italienne. Et donc, il prend de l'action que lui il pense nécessaire. Et aussi, il y a un procès. Et le procès dit très clairement, il fallait pas le faire, mais il y a aucune punition. Zéro. Et voilà, dans les circonstances, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, malgré ça, et ça c'est quelque chose de terrible, je crois que c'est 4 ans avant qu'il arrive à faire un. Et donc, c'est 4 ans avant qu'il va publier son tout premier livre de Madrigo. Et il y a les lettres et les histoires par rapport à son voyage, par exemple, entre Gesualdo, qui est à côté de Naples, et Ferrare, et par un monsieur qui s'appelle Fontinelli. Et à aucun moment, il parle de cet événement. Il dit que, voilà, Gesualdo, c'est quelqu'un de très bien. Il est complètement obsédé par la musique, qui est étrange pour un noble. Et aussi, il se trouve, pendant le voyage, qu'il a que 4 chanteurs. Et donc, plutôt que faire appel à un instrument, il dit, il n'y a pas de souci, moi, je vais chanter moi-même. Que les autres nobles sur le voyage trouvent un peu étonnant. Mais ça, c'est l'originalité de Carlo Gesualdo. C'est son parti obsessionnel, sans doute, mais avec la musique.
Et pourquoi? Pourquoi il faut comprendre le caractère d'un homme pour comprendre sa musique, finalement?
Mais moi, je trouve ça absolument fondamental. Parce que je crois qu'on a une responsabilité à ce compositeur de... Lui, quand il a mis son crayon sur le papier, il a eu dans sa tête une palette, une idée, une couleur, quelque chose à exprimer. Et s'il y a un génie dans la pièce, c'est certainement pas moi ou des autres chanteurs, c'est Gesualdo. Parce pourquoi refaire sa musique après autant de temps s'il n'y a pas quelque chose d'important à dire? Et donc, le plus proche, on pourrait être vers... À son idée, à son inspiration, le meilleur, ça sera le plus proche on est à cette génie. Et donc, le plus qu'on peut, puisqu'on est de sa vie, ses opinions, ses habitudes, le mieux c'est pour comprendre le monsieur.
Les livres 3 et 4 de Gesualdo, tous ces madrigaux, ça vient de paraître chez Harmonia Mundi, avec Paul Agnew qui chante et qui dirige ces chanteurs, donc des arts florissants, qu'on écoutera un tout à l'heure dans quelques minutes. Vous l'avez dit, les deux derniers livres seront enregistrés plus tard, vous n'arrivez pas à voir les chanteurs qui sont coincés en Grande-Bretagne. Du coup, nouveau programme Monteverdi, des madrigaux, à nouveau, ce sera dans quelques jours à la Philharmonie, en direct sur le site Philharmonie Live. Vous avez pensé que c'était un programme que vous auriez dû faire plus tard?
Oui, voilà, donc on se trouvait, c'était impossible de faire le sixième livre dans les conditions qu'on voulait faire. Mais on voulait faire quelque chose, et aussi avec le Philharmonie Live, il y a une sorte de responsabilité que chaque semaine, il y a un concert à présenter. Et donc j'ai pensé à un autre projet que j'adorais, qu'on n'a jamais enregistré d'ailleurs, et c'est les madrigaux de Monteverdi, mais avec les textes sacrés. Et en fait, il y a une petite relation avec Gesualdo, parce que l'œuvre est commandée par un monsieur qui s'appelle Federico Borromeo, et qui est un cousin de Cardinal Borromeo, Carlo Borromeo, qui est l'oncle de Gesualdo. Et en fait, Gesualdo est nommé après Carlo Borromeo, qui devient saint après. Et donc, il commande à un monsieur qui s'appelle Coppini d'écrire les textes sacrés. Et Coppini, avec Monteverdi, il prend souvent les madrigaux le plus expressif et souvent le plus érotique. Et il donne une sorte de charisme chrétien à ces madrigaux-là. Et ça marche d'une façon étonnante. Et on a fait ce projet au festival à Thierry il y a quelques années. Et il y a eu un prêtre dans le public qui a dit « Mais je trouve ça impossible que cette musique n'était pas écrite pour ces textes-là. » Parce que c'est fait avec une telle subtilité, une telle intelligence. Donc c'est une transformation des madrigaux, surtout de 4e et 5e livre de Monteverdi, en motet. Donc on va faire avec une dizaine de chanteurs.
Ce sera le 17 février en live sur le site de la Philharmonie de Paris, enregistré également par France Musique. On vous suit aussi de oui. très près. Puis aux joies à Madrid, le 23 février, en public.
Oui, c'est incroyable. C'est incroyable qu'il y a toujours... C'est quasiment le seul pays maintenant en Europe où on peut aller pour faire des concerts. Et c'est un public très réduit, on est à 50%, mais c'est quand même... C'est le contact avec le public est essentiel.
Allez, on va remonter un peu le temps. Voici Paul Agnew, Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, et c'est ici Marc-Antoine Charpentier. Un air de la descente d'Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier. Paul Agnew dirigé par les Arts Florissants. Paul Agnew et les Arts Florissants dirigés par William Christie, il y a une grosse vingtaine d'années, on va dire. Vous pourriez arrêter de chanter aujourd'hui, Paul Agnew? Uniquement dirigé?
Non, non, en tous les cas, non, parce que je crois que j'ai chanté tous les jours de ma vie, au moins à partir de 6 ans d'âge. Donc, c'est un grand amour, et aussi, je crois, pour moi, c'est quelque chose de nécessaire, de physique. Non, je peux pas imaginer de ne pas chanter. Non.
Et si à cette époque-là, il y a 25 ans, vous avez dit que vous seriez le chef avec William Christie des Arts Florissants, vous l'auriez cru? C'était quelque chose que vous aviez déjà
non.
en tête?
D'être chef de Les Arts Florissants, certainement pas. J'ai dirigé, quand je faisais mes études à Oxford, et j'ai dirigé un orchestre et un chœur, là, et vaguement, j'imaginais à la toute fin de ma carrière comme chanteur, je pourrais diriger quelque chose un jour, mais non, Les Arts Florissants, non.
Aujourd'hui, 8 février, Les Arts Florissants, le sont-ils florissants? Quelle est la santé financière de cet ensemble qui est quand même le plus connu en France, sans doute, de la musique baroque?
Ouais, la situation est toujours tendue. Et on compte beaucoup sur nos mécènes, un tout petit peu sur l'État, mais beaucoup sur la générosité de nos amis. Pour continuer, parce que je crois que le voyage n'est pas du tout fini. Au contraire, il y a un travail absolument énorme à faire. Et aussi, l'ensemble change constamment. Et donc, il y a beaucoup de jeunes dans l'ensemble en ce moment. Et ça donne une nouvelle énergie, un nouveau besoin pour nous. Et aussi, j'espère, pour le public. Je suis très fier de ma relation avec les Arts Florissants.
Ces jeunes, et notamment ceux que vous défendez, à qui vous donnez des ailes dans ce jardin des voix, et notamment en Vendée, attiré dans les jardins de William Christie, vous êtes inquiet pour eux, j'imagine, aujourd'hui?
Oui, je suis très content. Personnellement, je suis très content de ne pas être un jeune chanteur en ce moment, un jeune musicien. C'est terriblement, terriblement difficile. Et je sais que... Ici en France, on est relativement bien protégé. Mais quand je pense à des collègues britanniques qui n'ont pas du tout les mêmes protections, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes chanteurs qui tout simplement ont abandonné l'idée d'être chanteur.
Que vous connaissez?
Oui, oui, qui ont besoin.
Vous essayez de les convaincre, de leur dire mais non.
Oui, mais c'est très difficile. Ils ont souvent les jeunes familles, etc. Ils ont besoin de gagner leur vie. Donc,
on sent un autre métier.
Voilà, donc ils ont souvent fait les études dans des autres sujets, et donc ils retravaillent leur métier avant. Et ça sera tragique. Je crois que l'effet de ce moment, on va sentir dans les années qui viennent. Il va avoir un manque, et c'est pour certains, c'est vraiment très triste.
Merci. Merci beaucoup, Paul Agnoux, d'être venu ce matin sur France Musique. On va se quitter avec un autre madrigal de Gesualdo, extrait de ce disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi, Les Arts Florissants. Je rappelle que vous serez le 17 février en live sur le site de la Philharmonie de Paris pour ce concert Monteverdi. Le festival de printemps, normalement, en avril, musique sacrée.
On croise les doigts que ça va. Oui, je prie pour ça.
On en reparlera sur France Musique. Merci beaucoup.
Ben, avec plaisir.
Arde il mio cor ed esi dolce il foco, un madrigal du livre 4 de Gesualdo, Les Arts Florissants, dirigé par Paul Agnoux. Au générique ce matin de Musique Matin, Alex Billard, Youtou Diego Aclopès, Marion Guillemet, Margot Muller, Florian Henault et Yacine Bouzard. Demain, on parlera avec nos invités du streaming et de la question de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming qui se développent depuis le début de la crise sanitaire. La réponse à notre jeu, nous écoutions deux petits accordéons qui jouaient un arrangement de François Couperin.
À réécouter sur francemusique.fr.